RFI. Le débat du jour, Jean-François Cadet.
Le capitalisme est-il réformable? Question posée ce soir à l'occasion du colloque international Nouveau Monde, Nouveau Capitalisme, organisé aujourd'hui à Paris, en présence entre autres d'Angela Merkel, de Tony Blair, de Nicolas Sarkozy. Sous-titre officiel, éthique, développement et régulation. Après l'ébranlement de la crise, quels pourraient être les contours et les valeurs de ce nouveau capitalisme? Quelles réformes mettre en œuvre et peut-on les mettre en œuvre? Faut-il des changements cosmétiques ou aller modifier la structure même du capitalisme? Peut-on opérer le capitalisme à cœur ouvert ou faut-il rompre avec lui, car il n'y aurait plus rien à en attendre. Pour en débattre avec nous, deux économistes, Stéphanie Treillet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du conseil scientifique d'ATTAC, membre aussi de la fondation Copernic et membre du NPA, le nouveau parti anticapitaliste d'Olivier Besancenot. Face à vous, Jean-Luc Gréau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez été expert pour le compte du MEDEF, a priori donc vous n'appartenez pas tous les deux à la même crèmerie comme on dit.
Non.
Mais vous avez été parmi ceux, Jean-Luc Gréau, qui ont mis en garde contre la crise bancaire très tôt, hein, puisque vous avez sorti en 1998 un livre intitulé Le capitalisme malade de sa finance chez Gallimard. Depuis, vous avez récidivé chez le même éditeur avec L'avenir du capitalisme en 2005 et la trahison des économistes en 2008. Alors, réformer le capitalisme, vaste programme, hein, aurait dit le général de Gaulle. Les Européens en sont conscients. D'ailleurs, un sondage TNS Sofres, Le Figaro, réalisé dans 5 pays, le montre aujourd'hui. Majoritairement, les Européens souhaitent une réforme en profondeur du capitalisme. Seuls 7% des personnes interrogées disent y croire. 35% n'y croient pas du tout. Vous faites partie des 35%, Stéphanie Treillet?
Je pense qu'il faut d'abord préciser la question, et en particulier préciser les caractéristiques de ce capitalisme, celui d'aujourd'hui, qu'il faudrait réformer, c'est-à-dire les caractéristiques de son fonctionnement. On parle parfois de capitalisme néolibéral depuis les années 80, et c'est cette configuration qui est entrée en crise à l'été 2007. Par quoi se caractérise-t-il? Eh bien, par une hypertrophie de la sphère financière, tout le monde l'a constaté, et tout le monde, aujourd'hui, c'est une nouveauté, le déplore. Et c'est important. C'est important de voir quelles sont les racines réelles de ce fonctionnement.
Alors on va y revenir, mais est-ce que vous y croyez à la réforme? Peut-on réformer le capitalisme financier aujourd'hui?
Non.
Pourquoi?
Justement parce qu'on a affaire à un capitalisme qu'on peut appeler total, totalisant, totalitaire. L'économiste Michel Husson parle d'un pur capitalisme. On pourrait dire, pour employer une image, que c'est un capitalisme qui a resserré tous les boulons de son fonctionnement. Contrairement, par exemple, au capitalisme des dites 30 glorieuses des années 50 à 80, où un espace pour des réformes existait.
Jean-Luc Gréau,
c'est tout à fait différent.
Jean-Luc Gréau, on est allé trop loin dans le capitalisme pour pouvoir le réformer?
Non, on a simplement fait effectivement, Madame Treillet utilise justement le terme de configuration, qui est le mien aussi. Nous sommes dans la quatrième ou cinquième configuration historique du capitalisme. J'utilise également le terme de configuration néolibérale, comme elle-même, et ça me paraît juste. Mais je crois que on a eu une superposition, une sorte de scission entre la sphère financière et la sphère productive. Et en particulier, au sein même de la sphère financière, il y a une scission entre les salles de marché, pour parler très simple, les traders et l'activité de services financiers classique.
Hein. Entre finance et l'économie réelle, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui.
Voilà, non, mais même plus, je dirais, les salles de marché, les services financiers et la sphère productive. Hein. Ce sont les salles de marché qui ont orienté...
Est-ce qu'on peut revenir en arrière?
J'ai fait un livre délibérant pour ça, L'avenir du capitalisme, que vous avez cité tout à l'heure, et je vous en remercie, et le tout dernier aussi. Donc, et si je n'avais pas pensé que c'était possible, je n'aurais pas pris la peine de les écrire.
Alors, il faut réformer, c'est possible, c'est précisément ce que Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Tony Blair et d'autres ont dit aujourd'hui à Paris. On va écouter par exemple ce qu'a dit l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, qui était l'un des maîtres d'œuvre de ce colloque. Tony Blair.
Si nous voulons garder notre monde économique ouvert et ne pas tomber dans un protectionnisme facile, nous devons le rendre plus juste. Si le système financier doit un jour se rétablir, nous devons pouvoir avoir à nouveau confiance en lui. Pour retrouver cette confiance, le système entier doit être ancré dans des valeurs autres que celles du profit maximum à court terme. Il doit s'agir d'autre chose que la simple spéculation. Il doit aussi s'agir d'investissement et de développement. Les meilleurs entrepreneurs que j'ai eu la chance de rencontrer étaient d'abord ceux qui étaient passionnés par ce qu'ils créaient plutôt que par ce qu'ils accumulaient. Le changement que nous recherchons ne doit pas être le remplacement de l'économie de marché, mais sa survie d'une manière stable et durable.
Tony Blair, cet après-midi à Paris, des propos recueillis par Mounia Daoudi. Alors Stéphanie Treillet, quand vous écoutez Tony Blair dire il faut un système qui soit plus juste, un système qui soit fondé sur des valeurs autre que celle du profit immédiat, vous applaudissez, j'imagine.
Non, parce que je pense que parler de valeur revient à méconnaître finalement le fait que ce capitalisme financier, que tout le monde aujourd'hui semble déplorer, n'est pas tombé du ciel, n'est pas suspendu en l'air, et c'est pour ça que j'apporterai une nuance par rapport au terme qu'a employé Jean-Luc Gréau, si je l'ai bien compris, de superposition entre la sphère financière et la sphère réelle, dans la mesure où, bien entendu, on a l'impression que les mouvements de la finance sont totalement déconnectés de ce qui se produit, de ce qui se vend, de ce qui s'achète, mais en réalité, si on regarde de plus près, on voit que cette finance est tout à fait enracinée dans l'économie réelle. Il y a eu, depuis le début des années 80, un recul de la part des salaires dans la richesse produite dans les pays industrialisés. Ça a généré une masse de profits considérable au niveau des plus grandes entreprises. Or, que sont devenus ces profits? Pour la plupart, ils n'ont pas fait l'objet d'un investissement productif en conséquence. Les entreprises ont vu que leurs débouchés n'étaient pas forcément au rendez-vous, que des investissements productifs n'étaient pas forcément ce qu'il y avait de plus rentable. Et finalement, c'est cette masse de capitaux flottants, et de plus en plus flottants au fur et à mesure que la déréglementation leur a permis de circuler où ils voulaient à l'échelle mondiale, qui sont venus nourrir la sphère financière. Donc la sphère financière n'est pas déconnectée. Je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit, mais je pense que c'est important d'insister sur cet enracinement réel de la financiarisation, faute de quoi, si on ne s'attaque pas à la racine, on peut parler de valeur, mais ça ne servira à rien.
Jean-Luc Gréau.
Non, si vous lisez mes textes, Madame Treillet, cette superposition dont j'ai parlé à l'instant aboutit à une subordination. Donc la subordination des agents économiques, s'appelle les entreprises, ceux qui travaillent, à la sphère financière, ou plus exactement cet étage de la sphère financière qui s'appelle les salles de marché, pour accumuler, effectivement, nous sommes passés d'un régime de profit à un régime de super-profit. Ça, je l'ai dit il y a longtemps, je le répète de nouveau dans mon dernier ouvrage, et cette situation n'est pas tenable à long terme. Et elle est à l'origine de la crise actuelle, puisque effectivement la part du monde du travail, au sens le plus large du terme, a été réduite au cours des dernières années, de telle façon qu'aujourd'hui, nous avons devant nous une crise de la demande dont on ne sait pas trop bien comment sortir.
Alors pour revenir au système financier, Jean-Luc Gréau, est-ce qu'il y a quelque chose de vicié dans le système lui-même? Est-ce qu'il y a des emballements qui sont comme ça, inhérents au capitalisme financier, et qu'on ne pourra pas éliminer quoi qu'on fasse?
Alors deux choses très vite. Premièrement, le fait que, par exemple, toutes les matières premières, sans aucune exception, soient entre les mains des traders et non pas des producteurs et de leurs acheteurs, est une anomalie complète. Deuxièmement, c'est le problème de l'association durable des capitaux, sous quelque forme que ce soit, les actions ou les obligations, avec leurs destinataires. L'affaire du subprime rate, c'est tout simplement que les prêteurs sont devenus irresponsables. Ils revendent les prêts qu'ils accordent. Ça s'appelle la titrisation.
Mais c'est un problème contingent, c'est un problème consubstantiel au système capitaliste.
C'est un problème consubstantiel à ce qui s'est passé depuis 30 ans. La titrisation n'existait pas il y a 40 ans. Donc il faut revenir là-dessus et rebâtir un régime de relation entre les acteurs de la sphère productive et les acteurs de la sphère financière.
C'est possible, Stéphanie Treillet, revenir là-dessus.
Je ne pense pas que ce soit possible dans le système actuel, parce qu'il a sa cohérence. Il a sa cohérence, je suis par ailleurs tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-Luc Gréau, sur les conséquences de cette fuite en avant des marchés dérivés, des marchés de gré à gré, des innovations comme la titrisation. Et il y a toujours une course-poursuite entre les tentatives de réglementation toujours insuffisantes des marchés financiers internationaux et la formidable imagination qui préside à la naissance de nouvelles innovations financières. Bon, mais tout ça, ça a une cohérence. Et quand on parle d'irrationalité des marchés, moi, je n'y crois pas. Je ne pense pas que les marchés soient irrationnels. Et on a effectivement des bulles qui paraissent n'obéir à aucune rationalité, mais ces bulles finissent toujours par éclater et par faire de nombreuses victimes, d'ailleurs, dans la sphère productive. Et pour véritablement remettre en cause tout ce que vous avez cité, c'est-à-dire toutes ces innovations financières, il faudrait s'attaquer à la cohérence de ce système.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre le système totalement à bas ?
Ça veut dire mettre en place un certain nombre de réglementations.
Celles
qui existaient effectivement pendant les années de l'après-guerre, c'est-à-dire un contrôle international des mouvements de capitaux, contrôle qui, je vous signale, est explicitement interdit par un article du traité de Lisbonne au niveau de l'Union européenne, mettre en place une véritable séparation entre les différentes catégories de banques, banques d'affaires, banques commerciales, mettre en place une interdiction de ces mécanismes de titrisation des marchés de gré à gré, mettre en place un véritable contrôle des paradis fiscaux et pourquoi pas la levée du secret bancaire.
Ce qui va bien au-delà, Jean-Luc Gréau, de la régulation prônée aujourd'hui par ce colloque parisien.
Oui, ça va bien au-delà et oui. Tony Blair...
Est-ce que c'est la solution? Est-ce que vous êtes d'accord avec Stéphanie Treillet?
Oui, mais Tony Blair est un homme intelligent qui n'a pas compris que le libre-échange, dont il est toujours un partisan acharné, il veut réformer le système pour que le libre-échange international, qui met en concurrence les hommes à la surface de la planète, les hommes et les femmes, pardonnez-moi Madame Treillet, sur le critère du coût du travail et de la matière grise, ce système est à l'origine, une part de responsabilité énorme dans la difficulté que nous connaissons aujourd'hui, parce qu'il a abouti à ce que nous avons évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire à une déflation de
la rémunération du travail. Mais alors, quand on parle de régulation, quand on parle de contrôle, quand on parle de nouveau Bretton Woods, Stéphanie Treillet nous dit, attendez, tout ça c'est du cosmétique, l'important c'est qu'il faut rétablir un contrôle international.
Non, mais avant de ça, oui, bien sûr qu'il faut rétablir
de nouvelles règles. Régulation ou contrôle avec des interdictions.
Règles avec des contrôles, il faudra le
mais où passer le curseur, s'il faut dire.
Oui, mais il va falloir l'étudier de façon précise, mais avant ça, on a un problème d'urgence absolue, qui est l'asphyxie du système de crédit. On n'a pas besoin d'une révolution léniniste et trotskiste pour détruire le capitalisme aujourd'hui. Les banques sont en train de s'en charger. Bon. Et nous avons des manifestations quotidiennes. Madame Merkel a annoncé aujourd'hui qu'elle allait emprunter pour près de 200 milliards d'euros de façon à reprêter à son économie locale.
C'est une petite révolution intellectuelle pour elle, d'ailleurs.
C'est une anomalie en même temps. Bon, parce que ça veut dire que les marchés de crédit ne fonctionnent pas. Donc il va falloir, très vite, même si c'est un libéral qui le dit, à ma personne, nationaliser les banques, prendre le contrôle. Le Commerzbank est pratiquement nationalisé ce soir. Et pour réanimer, pour créer une entente entre les banques qui sont retranchées sur leur lendemain et les obliger à prêter à nouveau.
Stéphanie Treillet, vous dites finalement vous avez gagné ?
Pas du tout, parce que dans l'immédiat, Nicolas Sarkozy l'a annoncé, hein, ce qui va se poursuivre, c'est les contre-réformes libérales, encore plus vite, encore plus fort, bon, et encore plus, effectivement, de...
En même temps, Nicolas Sarkozy, cet après-midi, a encore dit, et on a besoin d'un État fort, d'un État qui intervienne, d'un État qui garantisse un certain nombre de
choses.
Alors,
d'un État fort qui intervienne dans un certain nombre de domaines, mais ça serait une erreur de croire que l'État avait totalement cessé d'intervenir dans ce qu'on a appelé la période néolibérale. Il intervient à sa façon, bon, mais il intervient d'une façon qui garantit davantage, pour employer un langage un peu direct, les profits, et en l'occurrence il s'agissait des profits des spéculateurs, qu'un bon fonctionnement de l'économie favorable à l'ensemble de la population. C'est faux de penser que l'État avait totalement disparu. On a l'impression qu'il revient aujourd'hui, mais en réalité, il a toujours été là. Quand il a fallu sauver les caisses d'épargne américaines, dans les années 80, à la fin des années 80, l'État était là. Cette idée d'un État qui se serait totalement effacé pour laisser les marchés agir, je pense que c'est une illusion. Ce sont même les États qui ont remis finalement les clés du fonctionnement de l'économie.
Jean-Luc Gréau, en tant qu'ancien économiste du MEDEF, vous dites aussi aujourd'hui on a besoin de plus d'État.
On a besoin d'un véritable État, c'est-à-dire un État pilote de l'économie, l'État keynésien, et aussi l'État produire de la norme, qui crée des règles. Bon, par exemple, nous avons une bonne législation commerciale en France de protection du consommateur. C'est l'État qui l'a fait. Bon.
Parce que le MEDEF dit quand même depuis des années, ce dont on a besoin en France, c'est de respirer, c'est de plus de liberté, bon, c'est de moins d'État, et que l'État étouffe.
Laissons le MEDEF sur sa trajectoire. Il apparaît à la faveur, si j'ose dire, de cette crise, que l'économie française n'est pas la plus mal placée. Elle est très touchée, mais moins fortement que l'anglaise ou l'espagnole, ou comme le sera peut-être l'Allemagne, du fait que ses exportations fléchissent et que son système bancaire est très atteint.
Stéphanie Treillet, est-ce que l'on peut moraliser le capitalisme ? Ça aussi, on a beaucoup entendu ça cet après-midi.
Je n'aime pas beaucoup qu'on parle de valeur morale ou de valeur éthique quand il s'agit d'abord de parler de rapport de force et de fonctionnement concret des mécanismes.
Valeurs, l'important c'est le fonctionnement.
Non, pas peu importe les valeurs. Ce qui importe c'est la cohérence et les objectifs du fonctionnement du système. Moi ce que je veux c'est un système qui soit capable de satisfaire les besoins de la majorité de la population, de construire des logements sociaux, des crèches, d'avoir des hôpitaux qui fonctionnent correctement, puisqu'on en parle beaucoup.
Un rêve inaccessible, Jean-Luc Gréau, ou on peut y arriver rapidement ?
Non, mais bon, par exemple, prendre le cas des hôpitaux et des crèches, la France est le pays qui est toujours capitaliste, qui fait le plus d'efforts dans ce domaine. Nous avons la plus grande espérance de vie en Europe. Et nous avons le meilleur taux de fécondité en Europe. Donc de ce côté-là, on ne peut pas dire que les choses aillent si mal dans ce pays.
Merci beaucoup à tous les deux. Stéphanie Treillet, économiste, membre du conseil scientifique d'Attac et de la fondation Copernic. Merci à vous. Jean-Luc Gréau, je rappelle les références de votre dernier ouvrage, La trahison des économistes en 2008. C'est paru aux éditions Gallimard. RFI, presque 18h30 en temps universel. Restez avec nous tout de suite, un nouveau journal.